Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
La bonne passe pour Mbappé.
Voilà.
Kylian Mbappé ne doute jamais.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Ah là là, 18h tout pile sur RMC, c'est reparti pour une magnifique émission. Rotten sans flamme reprend ses droits comme tous les jours de 18h à 20h du lundi au vendredi. On est vendredi. Et quel vendredi, on est encore une fois en demi-finale de la Coupe du Monde, on s'est régalé, merci l'équipe de France, merci la France, allez les Bleus, on est à fond derrière, il reste deux matchs pour vibrer, ramener la troisième étoile. Eh ben écoutez, c'est dans Rotten sans flamme que ça va se passer, dans tous les cas, on est avec une magnifique équipe, comme tous les jours, avec Benoît Boutron, en direct du Flora. Brasserie parisienne dans le 9e arrondissement. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Bah c'est tout droit Jérôme.
Tout droit.
Demi-finale désormais.
C'est tout droit. Wow. Déjà, avant de présenter le casting du jour, Benoît, je tiens à te féliciter aussi et à féliciter toutes les équipes de Rotten sans flamme.
Et tous les consultants.
Toute l'équipe de Rotten sans flamme, les consultants, Nicolas Ledru, Antoine Varnier aussi. C'est important. On a fait du bon boulot, on a eu les sondages, on est dans le vert. On est monté tout, on a récupéré des auditeurs tout au long de l'année. Voilà, bah écoute, c'est magnifique. On vous remercie, on vous en remercie vraiment. Ça fait chaud au cœur. Avant les vacances comme ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc j'avais envie de vous passer un petit message là-dessus à tout le monde. Bravo, bravo Christophe Dugarry.
Bravo du gars.
Bravo à vous les copains. Merci, ravi d'être là. Comment ça va? Vous avez passé vécu des émotions hier soir un peu? Pas trop.
Écoute,
hein, match bizarre.
Franchement, j'ai pris ton analyse et en fait, bah, t'avais raison. Voilà.
Ouais. Pour une fois, j'avais raison. Mais au-delà de ça, c'était un match un peu sans émotion, tu vois.
C'est vrai, le foot un peu pour ça,
un quart de finale. Et là, c'est heureux, bien évidemment. Hein, c'est génial, c'est fantastique, encore une demi-finale. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ça manquait un peu d'émotion, c'est dommage. Tu vois, j'aurais aimé être encore plus enjoué ce soir. Mais on est quand même content.
C'est pas faux. Il y en a un qui a dû faire la fête. Enfin, lui, oui. Oui, sur Carnac, il est là-bas. C'est Benoît Costil. Salut, Benoît.
C'est Jean Barnet dans le vert. Hein.
Dans le rouge, toi. Dans le vert, VE2RE, toi.
Ah oui, dans le vert avec du rouge.
Jérôme, tu tends une perche comme ça, tu crois que je vais pas la saisir? Je suis obligé de la saisir. J'étais avec papa, maman à la maison. On a regardé le match tranquille. Le lendemain matin, on était au sport ce matin, tranquille. Tout va démarrer.
Nicole aussi. Ah ouais, sympa la famille.
Demande à Jérôme le padré. Il nous écoute à ce moment-là sur la plage de Carnac. Il en peut plus.
Le padré, je peux te dire du gars. Et c'est pas le dernier. Hein. Ah, c'est pas le dernier. Ça.
Et à mon avis,
il n'a pas été au bout du match. Il a dû s'endormir.
Il est bien. On a regardé ça sagement et on s'est éclaté devant le match.
Bon, écoute.
Nous avons la chance d'être demi-finaliste de la Coupe du Monde, messieurs, dames. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On va revenir sur ce France-Maroc à 19h. Rotten se chauffe. Est-ce que Kylian Mbappé est redevenu le meilleur joueur du monde? Jérôme voulait absolument en parler. On lui a dit ok, Jérôme, on va en parler, pas de problème. Rendez-vous 19h pour parler de Mbappé qui nous a encore permis de battre le Maroc. Il a encore ouvert le score sur le match d'hier. Duga, tu l'attends à 18h30. On va ouvrir le procès de la sélection marocaine qui aurait pu faire mieux hier. C'est pas l'avis de tout le monde, c'est pas le tien d'ailleurs. Tu penses que le Maroc aurait eu du mal à faire mieux? On en parlera donc à 18h30. Et puis on va également se projeter dans ce Rotten sans flamme sur le deuxième quart de finale de la Coupe du Monde. Espagne-Belgique ce soir à 21h. Un invité de prestige à 18h45, Daniel Van Buyten sera avec nous.
Ah oui.
Invité de Rotten sans flamme, on est ravis de le retrouver.
Grand
Daniel
défenseur.
Van Buyten, grand défenseur du Bayern, de l'Olympique de Marseille notamment.
Enfin, surtout du Bayern.
Et puis à 19h30, est-ce que Lamine Yamal va enfin rentrer dans sa Coupe du Monde? On parlera de l'Espagne, donc avec vous aussi au 32-16. Le direct, c'est Wimbledon avec les demi-finales masculines que l'on suit avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous, salut l'équipe.
Salut Eric.
Eh ben la deuxième demi qu'a
bon
débuté depuis. Pardon ?
Bon appétit.
Ça fait peur, on a cru qu'on allait perdre.
Non, pas du tout, non.
Ah bon.
Non, tu te trompes. La deuxième demi a débuté depuis 45 minutes et il y a déjà un 7-0 pour Yannick Sinner, le numéro mondial qui a vraiment marqué au fer rouge Novak Djokovic avec notamment un passing de revers extraordinaire qui lui a permis de breaker. Derrière, il a confirmé. Donc 6-4 pour Yannick Sinner. Je rappelle, hein, vous le savez, que le vainqueur de cette demi de feu affrontera dimanche Sacha Zverev qui a mis fin au parcours d'Arthur Ferry, victoire en 3-7 de l'Allemand.
Merci Eric. 18h05 sur RMC, tout de suite, le voyant Christophe Dugarry avait tout senti.
Si vous ne venez pas à la voyance, c'est la voyance qui vient à vous.
Je ne comprends pas, moi, le discours qu'il y a autour de cette équipe du Maroc.
J'ai l'impression que c'est devenu des ogres. Non, attendez, oh les gars, attention, vous allez jouer la France, ça va être compliqué.
Mbappé, la frappe ! Ouais ! Kylian Mbappé délivre l'équipe de France !
Gérard est médium.
Quand tu veux créer du jeu, il faut avoir des joueurs, des cadors. Moi, je trouve qu'ils ont d'excellents joueurs, pas encore des cadors.
Il dit percevoir des vibrations.
Dès que tu vas perdre un ballon, tu vas prendre des espèces de fusées qui vont tomber dans le dos.
La frappe de Dembélé ! De France.
Et même avoir des intuitions.
Je pense qu'il va y avoir deux buts d'écart pour la France.
2-0.
C'est fini. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Victoire 2-0 face au Maroc.
Je suis épanoui dans ma fonction de sélectionneur.
Salut mon Didier, merci.
RMC intégrale Coupe du Monde.
Deuxième demi-finale d'affilée en Coupe du Monde pour l'équipe de France. Les Bleus ont donc battu le Maroc 2-0 hier soir à Boston. Mbappé et Dembélé buteurs. La France visera une troisième finale d'affilée en Coupe du Monde. Seuls le Brésil, 94, 98, 2002, et l'Allemagne de l'Ouest, 82, 86, 90, ont réussi cet exploit. On rappelle que les Bleus affronteront le vainqueur, donc d'Espagne-Belgique, coup d'envoi ce soir à 21h. La voix du foot sur RMC et dans Rotten sans flamme, Jean-Louis Tour en direct de Boston.
Allez là.
Salut Jean-Louis.
Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde. Et bravo pour les audiences, hein, c'est magnifique.
Ah oui, merci Jean-Louis. Eh ben écoute, ça fait plaisir venant de ta part.
Ça fait plaisir, ouais. Ça qu'on t'a appelé, pour en faire plus.
Jean-Louis, bah, revenons sur cette qualif sans trembler des Bleus hier soir sous tes yeux.
Oh, c'était impressionnant, hein. Franchement, moi depuis hier, je dis la même chose. Et je pensais pas que c'était possible d'arriver jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde avec une telle impression de puissance et sans avoir été mis en difficulté. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe devant avec le fameux trio offensif, mais derrière, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est-à-dire que là, le Maroc a quasiment attaqué autant que le Paraguay. C'est-à-dire qu'il y a un tir cadré dans le match à 5 minutes de la fin. Ils ont presque pas créé de danger et ça fait 3 matchs de suite que la France ne prend pas un but et est très peu inquiété défensivement. Ça fait partie du package de cette équipe de France. On a parlé des attaquants, mais au milieu de terrain, le boulot a été fait, et derrière aussi, à tel point que même quand il y a ces occasions ratées pendant le match, le pénalty que Mbappé voit Bounou le sortir, les occasions, la barre de Digne, les occasions qui vont pas au fond, on se dit à un moment donné, ça devrait craquer quand même en face, et de toute façon, ils sont si peu offensifs qu'on n'a pas vraiment tremblé tout au long de la rencontre.
Exactement.
D'ailleurs, le tacle de Rabiot ce matin, en dit long, c'est un peu sur le ressenti aussi des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que même eux, ils ont ressenti la déclaration de Rabiot. C'est même quand les Marocains avaient le ballon, on sentait qu'il pouvait pas se passer grand-chose, quoi, entre guillemets.
On va en parler. Ça, d'ailleurs, notamment à 18h30, ouais. Le procès de la sélection marocaine. La une de Rotten sans flamme aujourd'hui sur RMC, atteindre le dernier carré. Est-ce un exploit pour les Bleus, d'ailleurs, Jérôme, parce qu'on commence à être habitué. On reste sur deux finales. Là, on est encore en demi. On a battu que des adversaires entre guillemets à notre portée. Est-ce que c'est un exploit d'être là dans ce dernier carré alors ?
Oui, mais après moi je vais pas parler des adversaires. Je parle du parcours et dans un tournoi comme la Coupe du Monde, tu prends ce qui se présente et t'es pas obligé de jouer toujours les meilleures nations au monde. Elles ont qu'à se qualifier déjà parce que pour la plupart elles sont déjà dehors. Et puis après, tu prends. On parle quand même de la sixième nation au monde, hein, du moins au classement FIFA, c'est ouais. Le Maroc. Donc c'est pas non plus. Alors après le coup, et je suis d'accord avec Jean-Louis, on l'a vu hier, il y a une vraie différence entre les deux équipes. En tout cas, sur le niveau du Maroc hier et le niveau de la France, il y a une vraie différence et la logique a été respectée. La France s'est imposée sans trembler. Pas de souci. Après, de dire que c'est un exploit d'être en demi-finale, moi non. Je le dis pas comme ça. Refaire une finale, on n'est pas loin de dire que c'est un exploit de faire trois finales de suite. Ça serait la troisième finale de suite. Donc ça, oui, on peut parler d'exploit de ce côté-là, même si c'est une autre génération et on est tous unanimes pour dire. Et même les acteurs, hein, je les ai entendus, hein, de Kylian Mbappé à Adrien Rabiot, à j'ai entendu qui aussi dernièrement, je crois que c'est Maignan, qui disait que cette génération-là, il y avait un énorme potentiel en effet,
et Mbappé l'a redit hier,
et qu'il y a un groupe soudé et on le sent que ce groupe vit bien, et ça c'est des éléments hyper importants pour aller loin dans une compète et un tournoi comme la Coupe du Monde. Une fois que tu as dit ça, la demi-finale c'est pas suffisant. On parlait, la question, on peut pas passer de tout à rien, quoi. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a deux jours, Benoît, ouais, t'as fait le thème en disant, si on se fait sortir avant la finale, est-ce que oui, c'est un échec? D'accord.
Alors, c'était un peu soufflé par Christophe Dugarry qui m'avait dit, finale, c'est minimum syndical.
Est-ce que c'est un échec? Moi, je t'ai répondu, oui, c'est un échec. C'est un échec parce que, bah, après, on joue sur les mots. Des illusions, tristesse ou je sais pas quoi, ça aurait été un échec et ça serait un échec de pas aller en finale. Ok. Bon, écoute, donc c'est, je vais pas te dire que de se qualifier pour la demi-finale est un véritable exploit. Non, pour moi, ils sont dans la suite logique et avec les adversaires qu'on a joués, la façon dont on a fonctionné et encore sur le match d'hier comme sur le match contre le Paraguay, même si c'était un contexte spécial, il y a eu des très bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. L'avantage sur le match d'hier, et je sais pas ce qu'en pensent Christophe et Benoît, c'est que en face, il y a une équipe qui pour moi n'a pas fait son meilleur match, loin de là. Donc on n'a pas été inquiété, même s'il y a eu quelques carences et des joueurs qui ont pas fait un bon match hier du côté français, ça a suffi, si tu veux, pour les écraser de zéro. Voilà, c'est tout. Donc la demi-finale, elle aura lieu contre l'Espagne ou contre la Belgique. Peu importe, même si contre l'Espagne, on reste sur une défaite en demi-finale de l'Euro, je reste persuadé que cette équipe, elle doit aller en finale. Voilà.
Duga, est-ce que c'est un exploit ?
Écoute, c'est ni un exploit. Je pense qu'il faut pas minimiser d'arriver trois fois en demi-finale. Faut pas le minimiser parce que
non,
parce
ça c'est
que
sûr.
Voilà, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de super, de fantastique. Donc voilà, bravo, bravo à eux, bravo aux joueurs qui ont réussi ça, bravo à Deschamps. Il y a pas de problème avec ça. Après, dire que c'est un exploit d'arriver en demi-finale, non, non. Et moi, au contraire, par contre, de Jérôme, je comprends ce qu'il veut dire, mais moi, j'attache aussi de l'importance à l'adversité. Je suis désolé, tu te fais un 32e de finale et un 8e de finale et un quart de finale face à des équipes qui te sont largement inférieures. Alors, est-ce que c'est les adversaires qui sont largement inférieurs? Moi, je le dis depuis des années, et malheureusement, ça se confirme. Je trouve que le football des nations a régressé et régresse année après année. Ouais, et les formules proposées par la FIFA ne proposent que des matchs et des confrontations en régression. Alors, ils sont contents, ça permet de faire découvrir le Curaçao ou le Cap-Vert qui réalise des exploits. L'année dernière, c'était l'Arabie Saoudite. Bon, très bien, ça fait plaisir à ces petites équipes, mais on s'ennuie toujours autant. Et quand tu feras le bilan à la fin de la compétition, sur les 104 matchs, il y en aura peut-être eu 10 qui t'auront fait un peu vibrer, un peu kiffer, et des 10 autres qui étaient à peu près intéressants. Tout le reste, ça sera à jeter. Bon, ça pose pas de problème, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la France, avec le talent, avec le potentiel qu'elle a, c'est pas du tout un exploit. Après, est-ce qu'on est obligé de dire à chaque fois qu'il y a un parcours, c'est un exploit, c'est mérité, c'est pas mérité? Non, c'est juste moi ce qui m'impressionne, et c'était comme ce que je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Louis, c'est ce sentiment de puissance et d'impuissance de l'adversaire à jouer cette équipe de France. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que l'équipe de France fait peur, parce que l'équipe de France est impressionnante, parce que t'as peur de prendre un compte, parce que la maîtrise technique est là, parce que physiquement, on est monstrueux. Il y a plein de domaines sur lesquels on domine, on ultra-domine.
Tu joues quand même les adversaires du gars, quand même.
Exactement. Et pour l'instant, on n'a pas un adversaire pour l'instant qui a la qualité pour pouvoir, je dis même pas nous embêter, proposer quelque chose d'offensif. Mais j'en suis là, donc c'est dire.
C'est dire
qu'aujourd'hui, parce que le Maroc, ils ont fait le même match que le Paraguay, à la différence, c'est que les Marocains, c'est des gentlemen, c'est pas des bouchers,
ils se sont comportés
avec dignité, voilà, il y a aucun problème.
Et qualité technique malgré tout.
Ouais, mais on l'a pas vu.
Mais ça, je le vois pas, ça. Moi, vous me sortez ça depuis hier, vous me dites
que la qualité technique. C'est vrai, t'as raison, on l'a pas vu.
Que je l'ai pas vu. Je l'ai vu en première mi-temps face au Brésil et je l'ai vu en deuxième mi-temps.
Ils ont été bons sans ballon hier,
non? Face au Canada. À Jean-Louis, si c'était le même niveau que les Paraguayens, le Maroc.
On n'est pas très loin. Non, mais là tu chipotes. Là tu chipotes et tu veux. C'est l'arbre qui cache la forêt. Là tu veux renvoyer un. Non. C'est le même genre de match. Quand t'avais la possibilité de verticaliser le jeu, tu jouais soit à droite, soit à gauche, soit derrière. Voilà, il n'y a eu rien. En plus, avec la composition d'équipe de l'entraîneur qui, soi-disant, était un visionnaire, il a rendu une identité à l'équipe. nananère. C'était soi-disant un machin. Ok, d'accord. J'ai jamais vu le compo d'équipe comme ça. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Je serais ravi de l'avoir aujourd'hui. Bon, peu importe. Aujourd'hui, l'équipe de France est à sa place et l'équipe de France doit être championne du monde. Et elle va aller en finale. Et si elle n'est pas championne du monde, il n'y a pas de drame ou de mal à dire que ce sera un échec. L'équipe de France est sa grande finale. Et tu peux aussi dire, tu sais, entre l'échec et la réussite, c'est souvent, ça se joue à pas grand chose. Mais quand t'as le niveau de cette équipe de France avec ses joueurs, avec cette ultra domination, avec ce qu'on est en train de démontrer, il faut aller gagner cette Coupe du Monde. Et il y a aucun problème là-dessus. Se contenter d'une demi-finale, excuse-moi, c'est petit bras, ça a aucun sens. Et puis tu vas dire aux joueurs, tu vas dire, oh, les gars, demi-finale, c'est bien. Ils vont te dire, oui, bon, ok, c'est bien. C'était pas là pour ça. Les joueurs que c'est pas sûr. Là pour ça. Regardez Mbappé, on lui dit, est-ce que c'est la meilleure génération? Tout le monde a envie de dire, c'est peut-être la meilleure génération, la meilleure équipe. Mbappé, il a dit, attendez, calmez-vous. On a fait une finale déjà.
Il a rien gagné.
Il était champion du monde. Ouais, voilà, pour l'instant, on va. Oui, non, mais il est obligé. Il est obligé. Il pourrait dire, oui, on a peut-être la meilleure génération. Pour l'instant, on n'a rien gagné. Et on attendra de voir. On attendra. Ouais, moi, Voilà, c'est demi-finale, c'est le minimum, quoi.
Attends, nous, contrairement à l'Espagne ou l'Argentine, on se fait pas accrocher. C'est ça qui est dingue avec cette équipe de France. Il n'y a pas eu de scénario.
T'as pas eu d'adversaire non plus qui a aujourd'hui le potentiel, la carrure, les éléments, pour te perturber. Tu l'as pas.
Ouais, le classement FIFA moyen de nos adversaires depuis le début de la compète, c'est 29e. Quand on regarde
parce que là où je rejoins Duga et Benoît, je te lance là-dessus, mais c'est vrai que quand tu vois l'Argentine, ils ont galéré. Et surtout contre l'Égypte. On était là.
Et contre le
Mais est-ce que nous, on a joué une équipe capable de faire ce qu'a fait l'Égypte? Normalement, pour moi, le Maroc devait être capable de le faire.
Ah ouais.
Ils l'ont pas fait.
Le Maroc de 2022, c'est l'Égypte d'aujourd'hui.
Ouais. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux.
Ouais. Ben, est-ce que c'est un exploit d'avoir atteint le dernier carré?
Sur ce mondial-là, non, c'est pas un exploit. Comme l'a dit Duga, au vu de la qualité de l'effectif, la qualité de l'équipe et des adversaires où effectivement, t'es obligé d'en tenir compte des adversaires. Tu as pas, ton meilleur adversaire, c'est quoi, 6e au classement FIFA. Et quand tu as joué cette équipe-là, qui est le Maroc, ils ont pas fait le match de leur vie, hein, ce que je cherche. Parce que pour moi, je vais être dur avec les Marocains, pour moi, ils ont pas joué cette demi-finale, en fait. Alors, est-ce qu'ils ont pas fait le truc? Ils l'ont pas joué. Mais pour moi, ils valent beaucoup mieux que ça. Donc, un exploit, non. Ce qui est plus remarquable, c'est d'avoir autant de régularité sur les dernières Coupes du Monde et d'arriver à chaque fois au moins en demi-finale dans le dernier carré. Ça, quand même, faut le noter, et c'est assez fort. Quand on voit les difficultés de pas mal de nations ces dernières années, c'est remarquable de la part de l'équipe de France. Malgré tout, malgré le parcours qui est assez, entre guillemets, qui est à la portée de l'équipe de France, t'as quand même des équipes qui aujourd'hui sont à l'extérieur. L'Allemagne, ils sont plus là, le Brésil, ils sont plus là, l'Argentine,
c'est ça,
chaud.
Bien sûr.
Ce soir, il restera soit la Belgique, soit l'Espagne. Je pense qu'il restera la Belgique maintenant, l'Espagne, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais du moins ça fait un calibre en plus qui ne sera pas là. Donc du coup, l'équipe de France, elle, ne se fait pas piéger, elle a le mérite d'être là et c'est tout à son honneur.
Mais pourquoi l'Allemagne n'est plus là? Pourquoi le Brésil n'est plus là? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bons.
Parce qu'ils sont pas bons, exactement.
Mais bien sûr, parce qu'ils sont pas bons, les Allemands, je suis désolé.
Leur équipe, c'est un scénario.
Les Pays-Bas, regarde Ronald Koeman, enfin, ça s'est très, très mal passé, ça joue pas comme ça devrait jouer. Le Portugal, Martinez, il est déjà dehors. Toutes les nations aujourd'hui, le Brésil, toutes les nations aujourd'hui qui sont censées être des grosses équipes ont pratiquement viré tous leurs entraîneurs. Parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils estiment que le niveau de leur équipe par rapport aux joueurs qu'ils ont est très, très, très décevant. Alors bravo au Cap-Vert, bravo à tous ceux qui ont éliminé ces équipes-là. Mais moi, j'ai tendance à dire que c'est plus parce que ces favoris-là sont pas bons, sont catastrophiques, ne fournissent pas de jeu, les leaders ne sont pas à la hauteur, tout ce qui va avec, que les petits qui progressent de manière substantielle. Moi, je le ressens pas comme ça.
Non, mais là, moi, je suis d'accord avec ton analyse du gars sur le niveau du foot de nation. On le constate, et pas que depuis cette année, mais d'autant plus cette année, parce qu'en effet, il y a plus d'équipes qualifiées, et on le voit dans la qualité des matchs. Moi, franchement, je vais te dire, Benoît, et c'est pas enfoncer les Marocains pour les enfoncer, mais le match d'hier, où je suis d'accord avec Benoît, c'est que tu ne joues pas, ils ont pas joué leur match en fait. Alors peut-être qu'ils sont pris avec beaucoup de pression et les gens les attendaient.
Non, mais
que
la limite de votre raisonnement, c'est pas le niveau des Bleus sur le Maroc.
C'est l'un et l'autre. Est-ce que la limite de votre raisonnement, c'est pas le niveau de la France? Bah voilà,
je suis d'accord, mais avant le match, on discute de quoi? On compare le milieu de terrain marocain contre le milieu de terrain de l'équipe de France. On compare la défense avec la défense centrale du Maroc. Mais il s'avère que nous, on a le côté où on se dit, bah tiens, on veut pas que ça nous porte la poisse, on va un peu enflammer un peu le Maroc, on va jouer tout en toute humilité, etc.
Oui, mais bon, franchement,
sur quoi, l'équipe de France au départ, elle est bien au-dessus quand même.
Non, mais que l'équipe de France. Que l'équipe de France ait fait déjouer le Maroc, je veux bien, et que ça soit dur. Maintenant, après, quand t'as le ballon dans les pieds, peu importe l'adversaire que t'as en face, quand il faut faire une bonne passe vers l'avant et prendre des risques et aller percuter, aller faire un dribble, peu importe qui t'as en face, ce que je veux dire, Brahim Diaz, par exemple. Sur le match d'hier, à chaque fois qu'ils arrivaient à le toucher, ils l'ont touché trop peu parce qu'ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon. Mais lui, il a de la personnalité. Tu sens que dans le pied, il se passe quelque chose, tu vois. Et que ça soit la France ou les Pays-Bas, il a toujours montré certes quelques qualités. Le reste. Mon Dieu, sur le match d'hier, mais c'est catastrophique. Mais
ça, tu le verras par rapport à la demi-finale. Si tu joues l'Espagne, par exemple, là, tu pourras te dire, ok, là, c'est vraiment l'équipe de France qui est beaucoup trop forte.
L'équipe de France est forte, mais l'équipe de France.
Mais là, les choses sérieuses vont commencer. Là, aujourd'hui, ça y est, là, c'est fini. Là, c'est la Coupe du Monde.
Et après, la qualification au 32-16.
Et puis, l'équipe de France est forte. En effet, il y a l'adversité. Il y a les équipes qu'on rencontre.
On ne s'est jamais qualifié aussi facilement pour un dernier quart du monde.
C'est même trop facile par moment pour l'équipe de France. Sur le match d'hier, pour moi, c'était trop facile.
C'est sûr.
Donc mais attention que la demi-finale, Jérôme, quand ça va s'élever, que tu te fasses pas surprendre parce que à l'arrivée, on dit c'était
même
trop facile.
Si le
oui, mais regarde sur le match d'hier. Moi, ça m'a choqué. C'est le deuxième match de suite. Alors le Paraguay, le contexte, le côté truqueur, tricheur, tout ce que tu veux des Paraguayens, même excès d'agressivité. On est d'accord avec ça. Sauf que les joueurs offensifs, la plupart, ils ont pas existé. Là, quand avant que Kylian te mette,
il n'avait pas de joueurs offensifs.
Ah oui. Il n'y avait pas l'attaque.
Il n'a pas mis.
Il n'y a que des
milieux. Non, mais je te parle de la France. Les joueurs offensifs français hier, moi, excuse-moi.
Oui, Olise ne fait pas un grand match. Olise ne fait pas un grand match. C'est pas terrible.
Exactement, pour moi, ils ne font pas un grand match. Ils n'ont même pas eu besoin.
Ils n'ont même pas eu besoin de forcer leur talent, mais bien sûr.
Tiens, accueillons Sid, qui a composé le 32-16 pour participer au débat, Jérôme.
Salut Sid.
Oui, bonjour à tous.
Bon, bonsoir Sid. Bon alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'équipe de France? Est-ce que pour toi, déjà, la demi-finale, c'est un exploit?
Non, c'est pas un exploit. On s'y attendait. On avait envie avant. Mais je rebondis sur ce que disait Duga. Et sur ça, il a raison. Je pense que moi, la France, elle rend impuissant les autres équipes. Moi, quand je regarde le Maroc hier, je m'attendais à un pressing comme contre le Brésil. Et on regarde la première action. Ils font le centre. Ils envoient en touche. Normalement, tu fais monter ton équipe pour presser. Ils ne pressent pas.
Ouais, c'est vrai.
Rien que sur l'engagement. Tu as Hakimi qui ne monte pas. Et la seule fois où ils sont montés la première fois, ils se retrouvent avec un pénalty derrière. Donc, pense qu'il y a un premier rideau qui fait un pressing qui est énorme. Derrière, on a Koné Rabiot. C'est vraiment dur. Je pense que c'était dur. Et on entendait souvent, bon, peut-être que le milieu du Maroc était plus fort. Le premier changement, je crois, du Maroc, c'est les deux milieux qui sortent, je crois.
Et souvent, Boadi est sorti prématurément.
Ah non, mais sur le match d'hier, Sid, t'as raison. Et moi, je pensais qu'on. Alors, c'était un mal pour un bien pour moi, l'absence de Tchouaméni, et ça s'est confirmé
avec le
très bon match de Manu Koné.
Mais pas sûr que ce soit un vrai sujet, hein, Benoît, quand même. Je pense quand même que Tchouaméni garde de l'avance dans la tête.
Un sujet pour nous, Jean-Louis. Un sujet pour nous.
Oui, bien sûr, mais pas pour le staff s'élever, je pense.
Ah, bien sûr, ok.
Surtout avec l'adversité qui va s'élever, il va quand même remettre un peu de sécurité, je pense. Face à l'Espagne ou l'Argentine, il va.
Alors que Koné est fait pour ce système et cette façon de jouer.
Mais Koné, j'adore. Moi, j'adore Koné. Moi, je vous il peut faire quelques fautes
Koné, il a joué contre deux équipes qui n'ont pas attaqué.
C'est vrai.
Assurer cette sécurité de sentinelle, je ne te dis pas que Koné n'est pas capable de le faire, je pense qu'il est capable de le faire. Mais aujourd'hui, juger un numéro 6 sur une équipe qui n'a pas du tout attaqué ou qui a proposé, je crois, 3 tirs les Paraguayens ou 2 tirs et 3 tirs les Marocains. Il faut voir les tirs.
Mais ça, je suis d'accord.
Tu n'auras pas trop d'enseignements sur ça, quand même.
Non, ça c'est vrai. Maintenant, il y a le match d'hier. À chaque fois que Koné y joue, je trouve que moi, il montre un volume de jeu et puis surtout une prise de risque. On en revient au débat ce qu'on disait hier entre Tchouaméni et Koné. Ouais. Je trouve que Koné, c'est un vrai milieu de terrain. Tchouaméni, c'est un défenseur central. Voilà. Alors après, si on joue sur les mots, on dit que c'est un numéro 6 à une sentinelle. Pour moi, c'est un défenseur central. Donc, bon. Alors, ouais, bah, si tu veux jouer avec trois défenseurs centraux, et bah, tu joues avec Tchouaméni. Si tu veux jouer avec une équipe avec deux milieux de terrain.
Il joue déjà avec quatre offensifs. Tu veux qu'en plus, il joue avec un numéro 6 qu'un numéro 10, toi.
Ouais, exactement.
Bon, il est pas numéro 10,
il est venu au 32-16.
Arrête.
Un grand merci à Jean-Louis. Jean-Louis, on n'a pas d'écho Tchouaméni, d'ailleurs. On sait pas si, a priori, la demi-finale, il serait en mesure de la démarrer le 14 juillet, là, mardi.
Mais écoute, Tchouaméni, il s'est entraîné normalement la veille du match. Donc pour moi, il va faire les entraînements normalement à partir de maintenant. C'était juste une question de rythme à mon avis et pas de risque à prendre de forcer la chose pour Tchouaméni. Donc à mon avis, il va être dispo pour la demi-finale. Okay. Et comme je te disais, même si Manu Koné était très bon, dans l'esprit de Didier Deschamps, je pense que Tchouaméni a encore une longueur d'avance parce qu'il y a aussi le côté relais au milieu de terrain de Deschamps.
Oui, ça peut évoluer. Ça peut évoluer.
Et on rappelle d'ailleurs
Si t'as des infos comme d'habitude,
Ma confiance, ça peut évoluer.
Bon, on verra ça.
C'est possible.
Merci Jean-Louis, c'est jour off pour les Bleus aujourd'hui, un peu de récupération.
Exactement.
Avant de se concentrer sur la
donc, bonjour off alors Jean-Louis.
Exactement.
Merci d'avoir rayonné.
Non, on n'a pas
de jour. Il n'y a pas de jour off pour la cellule équipe de France d'RMC Sport, t'inquiète pas. 18h25. Dans un instant, on va le faire. On va l'ouvrir, ce procès de la sélection marocaine qui aurait pu faire mieux hier. On vous attend d'ailleurs là aussi au 32-16 pour rendre le verdict. On est là jusqu'à 20h, en direct de la Flora dans le
tout de suite là.
RMC 18h20. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Le pénalty pour Mbappé. Il est confirmé. La course d'élan. Mbappé. Et il s'arrête. Il frappe. Oh, l'arrêt de Bono. L'arrêt de Bono. C'est pas possible.
Benoît Boutron. Jérôme Rotten.
La coupe à la maison. On y est presque. Elle arrive bientôt, la coupe sur les Champs-Élysées ici à Paris. Eh ben, on ira la chercher. S'il faut aller la chercher, on va aller la chercher. Il est 18h31. On est dans Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, le Allô Jérôme.
Daniel Van Buyten avec nous. Ce soir, c'est Belgique-Espagne. Quart de finale de Coupe du Monde. Le vainqueur affrontera l'équipe de France. Hein.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait? On pousse les Belges ou on attend l'Espagne?
Ben, les Belges, moi, il y a quelque chose avec les Belges.
Ouais.
C'est dommage qu'il y ait Rudy Garcia, mais c'est des... voilà. Ben, écoute, il va nous en parler, Daniel.
Daniel sera avec nous et puis à 19h, on reparle de l'équipe de France. Avec Kylian Mbappé, est-il redevenu le meilleur joueur du monde? On vous attend le 32-16 pour en débattre. Mais tout de suite, ouvrons le procès de la sélection marocaine.
RMC, Rotten sans flamme.
La clé ici, c'est de se dire qu'il faut jouer ce match et en fin de compte, ne pas avoir de regrets. Donc il y a des choses qu'on doit mieux faire. Et ça passe justement par jouer le match à 2000% sans se dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas mal. Et de vraiment jouer ce match comme on a abordé les autres matchs, avec le couteau entre les dents s'il le faut, mais il faut vraiment qu'on soit motivé pour pouvoir le gagner.
Le procès de Rotten sans flamme.
Cette fin de parcours donc pour le Maroc, la dernière nation africaine encore en lice, comme en 2022, les Marocains éliminés par l'équipe de France sur le score de 2-0, c'était en demi-finale il y a 4 ans. Cette équipe marocaine qui n'a pas su créer des occasions et mettre les Français en difficulté, le choix tactique de Mohamed Ouabi d'aligner une équipe sans vrai numéro 9 n'a pas fonctionné. Je vous donne les stats du match quand même. 52% de possession pour le Maroc, 5 tirs et seulement un cadré, 22 tirs concédés dont 8 cadrés par les Marocains et un pénalty stoppé par Yacine Bounou, on l'a entendu dans la production sonore. Le procès donc de la sélection marocaine qui aurait pu faire mieux hier, on a deux procureurs. Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Benoît Costil, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de la sélection marocaine, on voit que c'est un drôle d'avocat, c'est Christophe Dugarry, bonsoir.
Pourquoi un drôle d'avocat?
Tu verras. Et c'est Tariq qui va rendre...
C'est une plaidoirie un peu particulière, mais...
Ouais, exactement. Tariq va rendre son verdict au 32-16. Salut Tariq.
Salut tout le monde.
Bonsoir
Tariq.
On a hâte de t'entendre.
On est avec toi Tariq. Hein. Je pensais te voir à l'émission, mais bon, à mon avis, là, tu sors plus.
Ouais, je pensais venir, mais finalement, j'ai
changé t'aurais pu. T'aurais rendu le verdict comme ça.
On t'aurait bien accueilli, Tariq, t'en fais pas.
Exactement. Jérôme, vas-y. Toi, t'as été très déçu par cette équipe marocaine.
Ah, oui.
Tu dis qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux.
Bah non, mais extrêmement déçu. Et dès les premières minutes, on a senti que ça manquait de... Alors déjà, par rapport... Et on en a parlé dans la première demi-heure, mais par rapport au choix de Ouabi, parce que quand tu mets une équipe, tu structures l'équipe comme il l'a fait, c'est... avant tout pour bien défendre et pour essayer de contrer l'équipe de France. Et on avait fait des débats avant le match, rappelle-toi, hier, et où on disait bon, je vois pas l'équipe du Maroc se renier, parce que l'équipe du Maroc elle est construite comme ça aujourd'hui. Wahbi, il a des idées bien précises sur le jeu et il l'a montré, donc il y a pas de souci. Donc ils vont essayer d'avoir le ballon, ils vont essayer de faire reculer cette équipe, et puis surtout retrouver les points forts de cette équipe avec Hakimi, qui est un bon contre-attaquant, excellent contre-attaquant, peut-être le meilleur au monde de ce côté-là, avec la qualité d'un Brahim Diaz, avec Mazraoui qui pouvait prendre ce côté gauche. Bon, à l'arrivée, Mazraoui, il a pas joué à son poste, il a joué dans l'axe. Il nous a fait une compo un peu zarbi à cause de du forfait de
Barry.
Peut-être, et encore, quand je vois ce qu'il a mis en place, peut-être qu'il sera aussi adapté avec Saïbari. Donc, c'est pas la présence de Saïbari qui aurait changé, si tu veux, l'idée de jeu principale de Wahbi. Et c'est ce que je pense, Benoît. Ouais, okay. Après, à côté de ça, même si t'as une idée de jeu un peu plus défensive que d'habitude pour essayer de contrer les offensives de l'équipe de France, tu te dois, quand t'es un joueur du Maroc, d'évoluer à ton meilleur niveau. Et pour moi, surtout dans le cœur du jeu, et c'est là qu'ils ont rayonné depuis pas mal de matchs, c'est pour ça qu'il y a eu cette série qui était impressionnante, plus de 30 matchs sans défaite, je trouve que, en effet, ce milieu de terrain a fait, ils ont fait leur match avant. Alors, pour plein de raisons, et c'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé aussi, quand le jour J, sur un grand match, il faut que tu sois présent et on t'attend là, et ben des fois t'as pas l'énergie qu'il faut parce que tu as trop pensé, la concentration, la motivation elle existait mais tu t'es un peu perdu sur la préparation de ce match qui est complètement différente de n'importe quel autre match. C'était un quart de finale de Coupe du Monde avec toute la pression que ça représente quand tu portes le maillot du Maroc. Tout le monde vous attendait là, tout le monde avant le coup, et Wahbi en est aussi responsable, a dit l'écart se resserre entre l'équipe de France et tout ça. On avait perdu 2-0 sur des décisions d'arbitre, on se souvient ce qui s'était passé en 2022. Là, aujourd'hui, si l'arbitre il est totalement objectif, peut-être que ça va rapprocher tout le monde et que l'écart il est aujourd'hui infime entre la sixième nation au monde et la première nation au monde. Bah, la preuve que aujourd'hui ça a pas suffi parce que les joueurs ils ont été complètement dedans. Donc moi je leur en veux en effet de pas avoir fait lâcher les chevaux et de pas avoir fait le match qu'il fallait faire, parce que je pense très honnêtement il y a un écart entre les deux. Mais le Maroc à son meilleur niveau aurait posé un peu plus de problèmes. Ils auraient perdu, parce que je trouve que l'équipe de France est très forte, mais il n'y aurait pas eu ce non-match total, parce que ça a rendu un match un peu triste à l'arrivée.
C'est vrai.
Tu vois, on a gagné 2-0, mais on n'a même pas transpiré, on savait qu'on allait gagner dans tous
les
cas.
Benoît Costil était très en colère ce matin, Ben.
Non, parce que j'aime bien cette équipe du Maroc, j'aime bien ce qu'ils ont proposé, enfin ce qu'ils proposent depuis longtemps, ce qu'ils ont proposé depuis le début du Mondial. On était tous enchantés de les voir jouer comme ça, de cette manière, surtout sur la première mi-temps contre le Brésil, même qu'ils sortent les Pays-Bas, qu'ils arrivent là où ils sont arrivés. Je veux dire, on aime bien l'équipe du Maroc, on aime bien les joueurs qui la composent. Mais hier, excusez-moi, mais je me suis emmerdé, notamment sur la première mi-temps. J'ai vu une équipe qui posait un double bus, qui ne proposait rien, qui ne prenait pas de risque. Avant le match, on annonce qu'aujourd'hui, que contrairement à 2022, on peut regarder l'équipe de France dans les yeux et qu'il y a vraiment match, que maintenant, de battre l'équipe de France, ce ne serait plus un exploit. J'ai envie d'être d'accord avec ça aussi. Je l'espère même qu'il y ait qu'il y ait plus match sur cette partie, sur ce quart de finale. Sauf qu'il s'est avéré que le gouffre, il y avait un gouffre entre les deux, que le niveau était bien trop important entre l'équipe de France et le Maroc. Ça, à la limite, ok. Mais jouer, quoi, en fait. Ils annonçaient ne pas vouloir de regrets. Mais aujourd'hui, ils peuvent en avoir. Le regret qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas joué ce match. Ils n'ont même pas disputé le quart de finale. Et qu'ils méritent beaucoup mieux que ça. Ils sont capables de beaucoup plus que ça, quoi.
Et c'est là où Christophe n'est pas d'accord. Parlons de la défense, Christophe Dugarry. Pourquoi ils n'ont pas de regrets à avoir.
Non, ils n'ont pas de regrets à avoir parce que je pense qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau pour battre cette équipe de France. Voilà, je pense que les choses sont pour moi assez claires et malheureusement ils l'ont démontré hier. Alors on peut toujours dire ils auraient pu faire plus, ils auraient pu courir plus, ils auraient pu. Oui, aujourd'hui leur adversaire c'est l'équipe de France. Cette équipe de France, elle fait peur. Je pense qu'ils n'ont pas les éléments physiques déjà dans un premier temps, d'agressivité, de volume de course, technique. Même s'il y a des bons joueurs de foot, mais ça reste une technique très arrêtée. On est loin de Olise, on est loin de Dembélé, on est loin de Doué, on est loin de tous ces joueurs-là quand même. Hein.
hein, faut remettre les choses dans un contexte. Donc voilà, après le Maroc fait un beau tournoi, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'ils ont réalisé, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Après l'effectif est talentueux, son parcours il force le respect. En revanche, sur ce quart de finale, voilà, tout le monde s'attendait à autre chose, et c'est vrai que la déception elle est certainement là, c'est que tu aurais aimé voir un autre match. Voilà, des deux côtés, je pense que Marocains comme Français, on est déçus. Les deux sont déçus parce que tu avais envie d'assister à un quart de finale, une autre compétition, quelque chose d'autre. Moi, je pense que, je l'ai dit hier, je pense que cette équipe est encore très jeune. N'oublions pas que cette équipe marocaine, ce qu'elle a réalisé, la progression ultra rapide qu'elle a réalisée, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, ce n'est plus un exploit isolé ce qu'ont fait les Marocains. Ils sont dedans. Mais il faut être lucide aussi. Et je trouve que moi, ils ont manqué de lucidité dans le discours qui a arrondi cette Coupe du Monde et autour de cette Coupe du Monde, autour de cette confrontation avec la France, où tout le monde s'est dit, ça y est, l'écart s'est réduit, ça y est, on est parmi les six, ça y est, on est parmi les... Oui, tout ça, c'est vrai. Mais il y a après un contenu, il y a quelque chose à donner. Et je pense que dans l'analyse, et même l'entraîneur, je pense que tout le monde s'est trompé. Dans la communication, ils se sont trompés. Dans la tactique, ils se sont trompés. Et les joueurs aussi se sont trompés, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont voulu mettre en place, faire ou pas faire, à redoubler de passes, faire des centaines de passes dans leur camp, à quoi ça servir, faire sortir les Bleus, pas les faire sortir. Je serais curieux de savoir ce qu'ils ont voulu. Je pense qu'ils se sont trompés. Et je pense que c'est une bonne leçon d'humilité. Et ils ont oublié aussi ce qu'ils ont fait de bien par le passé. Cette équipe du Maroc, ne pas penser, hier on nous disait c'était des joueurs techniques. Oui, mais c'est une bonne technique, mais pour l'instant qui est arrêtée, pour l'instant qui a besoin de progresser. C'est une jeune équipe qui a encore besoin de s'améliorer, et il leur manque deux cracks, un ou deux cracks, qu'ils n'ont pas. Leur meilleur joueur, c'est Hakimi. Et tu vas voir dans les demi-finales, dans les équipes qui vont être en demi-finale, elles ont des cracks qui te gagnent les matchs. Parce que dans les gros matchs, t'as beau tourner, virer, même si t'as un collectif intéressant, qui te fait gagner les gros matchs, c'est les cracks. Et là, il y avait un gros match à faire, et des cracks, ils en ont pas. Ils ont une bonne équipe, collectivement, ils ont un esprit, ils ont plein de bonnes choses, mais il leur manque des cracks. Et c'est là qu'il va falloir maintenant travailler. Continuer à travailler sur la durée, parce qu'il faut rester là où ils sont. Attention, très difficile de rester, de faire ce qu'ils restent. C'est là où ils en sont. Très très difficile. Faut pas penser que c'est un hasard. Demi-finale plus quart de finale, là c'est un exploit qu'ils ont fait. Le plus dur, ça va être d'y rester et d'améliorer par petites touches les choses pour pouvoir affronter les meilleurs. Parce que là, pour l'instant, il faut le reconnaître, ils sont loin des tout meilleurs, on va dire des trois premiers, parce que pour moi il y a un écart même entre le premier et le sixième, l'écart il est abyssal, parce qu'avec ça,
entre le podium et le reste, t'as raison qu'il y a un sacré
abyssal. Voilà.
Tariq, je t'avais dit, c'est un drôle d'avocat pour la sélection marocaine. Quel est le verdict alors?
Ben oui, en fait, je vais quand même donner la victoire à Jérôme et à Benoît, mais Christophe a raison aussi. Il a raison, et je pense que vous vous rejoignez tous. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'avoir de la frustration par rapport au match d'hier sur le comportement des joueurs, et surtout sur. Pour moi, ils n'ont pas joué un quart de finale parce que quand tu joues un quart de finale contre l'équipe de France, même si tu sais qu'ils sont au-dessus, tu dois laisser ta vie sur le terrain, et c'est pas ce que j'ai ressenti. Et,
ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas laissé leur vie, ça, c'est sûr.
Oui, j'ai l'impression en fait, à titre de comparaison, ils ont fait un complexe, ils ont beaucoup trop respecté l'équipe de France à titre de comparaison avec l'Algérie contre l'Argentine. Et moi,
j'ai un copain marocain qui m'a dit hier soir, les Lions c'était les Français et les Marocains c'était les Lyonceaux.
Bien sûr. Et encore, il est gentil quand il parle de Lyonceaux parce que pour moi hier, j'ai reconnu personne en fait, ni les joueurs. Et ni le coach qui m'a déçu en fait dans sa tactique. Quand tu regardes,
Tariq, t'es encore plus frustré qu'en 2022 d'ailleurs.
Bah oui, en fait, juste par rapport à ça, il y a eu des débats en fait de se dire quelle est l'équipe la plus forte, celle de 2022 ou 2026. Mais je pense qu'en fait c'est celle de 2022 parce que le problème de celle de 2026 c'est qu'on n'a pas assez de profils différents. En 2022, on avait par exemple Amrabat qui était ultra agressif au milieu de terrain. T'avais des joueurs de percussion sur les côtés, soit Boufal, Ziyech, qui étaient des créateurs et un petit peu des joueurs qui t'amenaient de la folie. Et hier, en fait, c'était plat, en fait. C'était plat, tous les profils se ressemblaient. Et c'est là où je dis que quand même, celle de 2022 avait plus de caractère et t'avais plus de folie dans les profils et plus de profils beaucoup plus différents que ce qu'on a actuellement. Après, bon. ça reste quand même un quart de finale et ça reste une Coupe du Monde réussie.
C'est vrai, t'as raison Ben. En 2022, il y a match.
En
2022, le Maroc a eu des.
En 2022, il y a match et tu m'as dit
beaucoup plus
de France.
Beaucoup
oui,
plus,
beaucoup plus.
Merci Tariq. Victoire
merci Tariq.
Benoît et Jérôme.
Reviens quand tu veux, Tariq.
Il n'était pas loin dans ce procès. Merci à Tariq. Et dans un instant, on va se projeter sur le choc du soir Espagne-Belgique avec un ex-international belge, Daniel Van Buyten, dans Rotten sans flamme. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Raskin qui récupère la frappe du droit et c'est au fond pour la Belgique qui ouvre le score avec Charles de Kettelaar.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC. Et oui, on est en mode Coupe du Monde. On est en demi-finale. Premier qualifié pour ces demi-finales. L'équipe de France qui a écrasé le Maroc 2-0 hier. Sans trembler. On est avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h. Ce vendredi soir. Après, on vous laisse tranquille tout le week-end. Profitez du reste des quarts de finale.
C'est sympa de regarder l'écart quand t'es en demi. Là, c'est quel bonheur.
Bonheur. Non, mais surtout, c'est un bonheur de regarder ces matchs-là. On a envie de voir des grands matchs et tout ça avec tout ce que ça représente. Et puis on a hâte surtout aux demi-finales parce que ça risque d'être.
Mardi, l'équipe de France 21h. Avec un grand Roten sans flamme des 18h.
Exactement. Mais avant, on va recevoir une légende du football belge.
Avant d'accueillir Daniel Van Buyten, détour par Wimbledon. On a une magnifique demi-finale entre Novak Djokovic et Yannick Sinner avec Salio.
Oui, magnifique demi-finale. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme France-Maroc. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui domine largement, c'est Sinner. Et alors, évidemment, Djokovic fait ce qu'il peut, mais pour l'instant, il est submergé. 6-4, 5-4, 30-0 pour Yannick Sinner, qui peut déjà prendre une avance de 2-7, alors qu'on n'est même pas à 1h30 de jeu. Donc, vous avez une idée assez précise de la domination du numéro mondial face à un Djokovic, qui peut-être paye les 5h15 de son combat en quart contre Félix Auger-Aliassime. Bon, c'était mardi, hein. Mais quand même, à 39 ans, ça reste dans les jambes, Jérôme, ça tu le sais.
Ah ouais, ça pousse. Ouais. Ils sont loin, mais 39 ans. Mec.
Je rappelle que Jérôme est grand-père quand même, Eric.
Pardon.
Bon, merci, Eric. On se retrouve un peu plus tard.
D'un petit Maël. Et on l'embrasse.
Et on l'embrasse, Maël. Ouais. Allez, tout de suite, accueillir notre invité.
RMC, Roten sans flamme.
André Louis va frapper le coup franc. Les Marseillais jouent donc à 10. Bien frappé.
Oh, et but au premier poteau de balle. Oh, Buten. Ballon distillé par André Louis pour la plus grande joie de ses supporters.
Hello, Jérôme.
Yes.
Le deuxième quart de finale de la Coupe du Monde ce soir, c'est David contre Goliath à Los Angeles. La Belgique de Rudy Garcia face à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Les Belges qui restent sur une belle victoire 4-1 face aux États-Unis en 8e. Ils avaient été miraculés, souvenez-vous, en 16e contre le Sénégal, 3-2. On en parle avec Daniel Van Buyten, qui est notre invité, Jérôme.
Salut Daniel.
Salut tout le monde. Bonjour.
Salut Daniel.
Bienvenue Daniel. Merci.
Bonsoir Daniel.
Dans Roten sans flamme. Écoute, ça tombe bien, toi, légende du football belge. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette confrontation ce soir? Ça va être chaud contre l'Espagne.
Ça va être chaud. Je pense aussi que c'est un peu le premier test vraiment de la Belgique. On a eu ce test face au Sénégal. On a quand même senti un peu de difficulté. Après, on est bien sûr heureux d'avoir pu gagner ce match. Il y a eu quelques circonstances, peut-être même arbitrales, en notre faveur. Mais je pense sincèrement que le plus gros test, c'est ce soir.
Daniel, comment tu réagis, toi, à tous ceux qui disent « Non, mais les Belges sont déjà dehors, ce soir c'est terminé, l'Espagne va se qualifier tranquillement ». C'était un peu le discours de Rudy Garcia avant match, d'ailleurs.
Alors, j'ai malheureusement vécu une finale de Ligue des Champions à l'Allianz Arena, où malheureusement, on perd cette finale contre Chelsea. Je pense qu'on domine 80% du match. On a 30 occasions à une. On a des pénalties, on les rate. Et si vous regardez, allez, ça reste le football. Encore une fois, ici, même si l'équipe de France a une équipe incroyable, le dernier match ici, ils ont aussi des pénalties, les loupes et tout ça. Dans un match de football, on ne sait jamais. Il faut vraiment jouer jusqu'à la dernière minute. On peut se sentir peut-être malmené pendant tout le match. À un moment donné, il faudra mettre les balles au fond du filet. Et peut-être qu'à ce moment-là, on est dans un jour de réussite. Le football, c'est comme ça. La réussite, elle compte aussi. Donc on verra bien. Je ne dis pas qu'on est favori, loin de là, mais en tout cas, je ne m'avoue jamais vaincu. Donc on jouera notre chance jusqu'à la fin et puis on verra bien. Encore une fois, on verra.
Daniel, qu'est-ce que tu penses de un coach qu'on connaît bien, Rudy Garcia? Qu'est-ce que tu penses de l'apport de Rudy Garcia à la tête de la sélection? On sait qu'il y a eu quelques échecs avant Rudy. Pour toi, est-ce que tout est positif avec son arrivée?
Tout est positif. Je pense qu'il y a déjà l'historique de l'entraîneur. L'entraîneur a déjà prouvé aussi dans les clubs qu'il faisait des bons résultats. Après, on a quand même eu une demi-finale aussi. On est déjà allé loin aussi en Coupe du Monde. Maintenant, voilà, je pense à nouveau, il y a pas mal de bons entraîneurs. Le top entraîneur, c'est celui qui fait des résultats et qui connaît surtout le groupe. Ici, c'est quand même un groupe un peu spécial. Il y a beaucoup de jeunes, bon, quelques vieux, mais il y a beaucoup de jeunes. C'était un peu une nouvelle dynamique. On part pas favori, mais justement, c'est d'aller chercher cette alchimie en mettant des De Bruyne sur le banc et tout en et qui reste motivé justement en rentrant et peut-être en faisant la différence. Donc voilà, je pense sincèrement que l'entraîneur a toutes les qualités pour faire des bons résultats. Mais encore une fois, c'est les résultats qui vont décider si l'entraîneur est vraiment bon dans le football.
Ouais, mais Daniel, c'est toujours... Daniel, excuse-moi, juste une question. C'est quand même réussi cette Coupe du Monde, parce que quand même battre le Sénégal et battre les États-Unis chez eux, moi j'étais pas persuadé, j'aurais pas mis une pièce sur les Belges, quoi. Ils y sont arrivés quand même à la compétition, les Belges, en boitant un peu quand même, tu vois. Donc moi j'ai l'impression quand même, si tu perds contre l'Espagne ce soir, t'as rien à perdre. Ce sera quand même une Coupe du Monde réussie. Je m'attendais pas à voir les Belges à ce niveau-là, moi quand même.
Parce qu'on a toujours ce syndrome de petit belge, et donc on se dit que si aujourd'hui on gagne, si aujourd'hui on sort, oui, la Coupe du Monde, elle n'est pas perdue. Maintenant, moi, sincèrement, contre les USA, je partais confiant. Maintenant, voilà, on joue peut-être chez eux. Les circonstances avec Balogun et tout ça, je pense que ça a été en notre faveur, parce que je pense que c'est plus eux qui avaient la pression. Et pour le reste, le Sénégal, encore une fois, on l'est sorti, mais allez, je veux dire, c'est un concours de circonstances aussi. Ouais. Il y a une sortie du gardien. Je pense que si le gardien titulaire il joue, je pense pas que ce match on le gagne, parce que je crois qu'il y a des il y a des grosses erreurs à ce niveau-là, et peut-être aussi au niveau de l'arbitrage, parce que bon, on va pas en parler, on va pas faire un thème de l'arbitrage sur cette Coupe du Monde-ci, parce qu'elle est un peu scandaleuse, mais pour le reste, je pense que voilà, c'est le gros test, il est ce soir. Les matchs avant. Bah écoutez, la Belgique, on regarde 2 ans avant, ils sont numéro 1 mondial, hein, donc il faut pas non plus les sous-estimer. Certes, il y a des joueurs qui sont partis, mais il y a quand même encore des bons jeunes qui sont là. Et aujourd'hui, au niveau classement mondial, on n'est pas si loin que ça. Donc encore une fois, si aujourd'hui on peut pas gagner contre des USA ou certaines équipes, bah alors on n'a rien à faire là-bas non plus. Donc non, je pense qu'on sous-estime peut-être un peu l'équipe belge. Il faut jouer contre, il faut les gagner, et puis nous on va tenter notre chance à fond.
La Belgique est 8e au classement FIFA, hein. T'as raison Daniel de le rappeler. 8e place au classement FIFA pour les Belges, donc ça reste une nation de référence. Qu'est-ce que t'as pensé toi des choix de Rudy Garcia et des performances des fameux vétérans qui sont dans cette équipe comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku? C'était vraiment surprenant pour Lukaku qui avait joué 25 minutes avec son club sur toute la saison et qui a été sélectionné au contraire d'un joueur comme Openda, l'ancien Lensois. C'était un peu une surprise. Est-ce que tu étais d'accord avec les choix de Rudy Garcia avant la compète, et qu'est-ce que tu penses des performances de De Bruyne et de Lukaku?
Je suis d'accord avec ces choix. Encore une fois, tant qu'on gagne, on fait toujours les bons choix. Mais je suis d'accord de mettre aussi de la concurrence. Et peu importe que tu sois pour moi un vieux dans un groupe, mais si tes qualités et si le rendement il y est, pour moi, tu dois être un titulaire. Et si tu es un gamin de 17 ans, que tu as le rendement aussi et les qualités comme Doku le fut quand il est arrivé en équipe nationale, bah, tu dois le mettre aussi titulaire. Moi, je suis pour le rendement et pour le football, il n'a pas vraiment d'âge. Bon. Termine ma Coupe du Monde sur 37 ans, je pense, voilà, j'ai donné le maximum, mais j'aurais pu aller sur le banc, c'est pas pour autant que j'aurais été un mauvais joueur, ou bien au contraire, mais j'étais fit, j'étais prêt, et j'étais prêt à aller à la guerre à chaque match. Donc à partir du moment où le corps te dit tout va bien et que tu te sens à 100%, je pense que l'entraîneur doit mettre les joueurs qui sont à 100%. Je l'ai vécu avec Pep Guardiola, un joueur qui était à 85%, il disait non, je préfère un joueur un peu peut-être moins bon, mais qui est à 100%. Moi, jouer avec des joueurs qui sont, qui ne sont pas fit à 100%, je préfère les mettre sur le banc. Ils auront leur possibilité aussi certainement de rentrer, de faire la différence, et à ce moment-là, peut-être avec un peu moins de minutes, peut-être avec un peu de fatigue de l'adversaire. Donc, je crois qu'il faut gérer un groupe, il faut connaître à l'intérieur, il faut voir aussi les tensions qu'il y a, tout ce qui se passe dans un groupe. Il y a plein de choses, plein de données, des fois qu'on n'est pas au courant, la veille, bien dormi, peu importe. Donc, il y a des fois des circonstances qu'on n'est pas toujours au courant.
Daniel, c'est quoi ta lecture du match de ce soir par rapport au plan des Belges face à cette équipe espagnole? On va pas être surpris de ce qu'ils vont proposer, les Espagnols, hein, grosse possession de balle avec des redoublements de passes, ils t'usent. Toi, tu t'attends à quoi côté belge?
Je pense exactement comme la plupart des adversaires, quand l'Espagne joue contre, ils vont prendre le monopole du ballon. Ils vont dominer une grosse partie du match. Et nous, je pense qu'il faut certainement en profiter. C'est sur les phases arrêtées. Le football aujourd'hui, on l'a vu dans énormément d'occasions. On marque beaucoup de buts sur les phases arrêtées. Donc, je pense que tout simplement, voilà, il faut saisir nos chances quand on aura la possibilité de sortir en contre. Parce que il y a certaines lacunes aussi dans cette équipe là et elle est pas au niveau de l'équipe de France mais elle a des lacunes aussi donc voilà, je pense qu'il y a des possibilités et ce sera à nous de tenter nos chances, nos sorties de balles parce qu'on a quand même des joueurs assez rapides, hein, Doku, il faut quand même se le farcir et d'autres joueurs qui peuvent rentrer, Doku et Bakio, ce sont des joueurs un peu d'instinct, ce sont des joueurs un peu de spectacle et sur une situation ou l'autre, encore une fois, aujourd'hui l'arbitrage, des fois il y a des pénalties où il y a pas et donc c'est spécial.
Daniel, ouais. Merci beaucoup. Je précise à tous les Français qui nous écoutent, qui sont à la frontière entre la France et la Belgique, grosse soirée dans le fief de Daniel Van Buyten, hein, au QG, la brasserie voilà du Bertrand Sarr, c'est à Gerpine, donc on est vraiment pas loin de la frontière française. Grosse soirée, paella, etc. Bah,
et la bière va couler à flot, Daniel.
Là, vous allez vous régaler.
Oui, hein. Oui. Ouais, bon. Ouais, non, c'est bien gentil. Merci pour la petite publicité. C'est vraiment.
Eh ben, n'hésitez pas.
Écoute, c'est avec grand plaisir d'aller. Merci d'avoir été là. Bon. C'est toujours un plaisir de t'accueillir.
Continue comme ça, Jérôme. Belle émission. C'est vraiment sympa. Des belles personnes. Surtout des gens qui connaissent le football et qui parlent football. Trop souvent, on entend des gens qui, malheureusement, n'ont pas fait de carrière et c'est des fois un peu décevant. Mais bon, voilà.
C'est gentil. C'est gentil, Daniel.
Et allez l'OM, Daniel.
Salut, Daniel. Allez,
merci,
salut,
Daniel.
Bye.
Merci Daniel. 18h59 sur RMC dans un instant. Roten se chauffe.
Il était parfait jusqu'à la dernière phrase.
Ah non, il a été bon, magnifique. Roten se chauffe parce que Mbappé est redevenu le meilleur joueur du monde. A tout de suite sur RMC. Allez,
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.